Bon, nous voilà prêts à entamer l'après-midi. Mon nom est José Gotovitch, ça n'a aucune importance. Mon rôle est tout à fait secondaire ici. Disons que, pour dire quand même quelque chose, personnellement, mes liens avec le Chili sont très limités, mais il y en a au moins deux que je revendique, enfin au moins un, c'est que je suis un des éléments de stabilisation et d'intégration de l'émigration chilienne, puisque deux de mes petits-enfants sont à moitié chiliens, ils sont chiliens par leur mère, donc c'est déjà un élément qui me rend le Chili très proche, évidemment, en dehors de l'émotion fondamentale que nous avons tous, que tous les démocrates ont ressentie en 73. Mais précisément à propos de 73, et c'est le deuxième élément que je voudrais mettre en autre, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, j'ai voulu effectivement parler du Chili, et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour des étudiants dans les années 80-90, ils avaient peut-être une idée qu'il y avait eu quelque chose en 73, qu'il y avait un Allende qui avait été renversé, mais c'était peut-être le seul élément qui marquait ou qui restait en mémoire ou en apprentissage à ces jeunes de première candidature ici à l'université. Et en fait, sur le contenu de l'unité populaire, sur les réalisations du gouvernement Allende, il n'y avait pas une seule connaissance. Personne n'était au courant de ce qui s'était produit de formidable dans ces trois années, et que les orateurs ici ont évidemment bien plus de connaissances que moi pour trander. Donc, je pense qu'effectivement, des colloques comme ceux-ci réunissent évidemment des gens principalement intéressés, c'est clair, et beaucoup de témoins, d'acteurs également, mais je crois qu'il est très important de revenir dans le contenu, dans les cours, parce que ce sont des expériences qui sont nécessaires à la transmission et surtout à la réflexion d'aujourd'hui. Et effectivement, la réflexion d'aujourd'hui, c'est le sujet de notre après-midi, c'est au fond, que reste-t-il, et que reste-t-il à apprendre de cette période fabuleuse et des entreprises fabuleuses qui ont été entamées sous Allende. C'est toujours un sujet de polémique. On pourrait croire que l'expérience est unanimement célébrée, révérée comme une de ces pépites de la mémoire de la gauche démocratique. Mais non, on entend des opinions très contrastées à propos de cette expérience. Et je crois que cet après-midi, nous allons voir plus clair grâce aux orateurs qui ont été réunis, qui vont prendre la parole devant vous. Alors, on commence par Monsieur De Beus, qui est un sociologue de l'Université catholique de Louvain, mais qui est, je crois, surtout un acteur ou un témoin, puisqu'il a eu, je ne sais pas ce qu'on peut appeler l'honneur, le plaisir, ou la détresse, ou la tristesse, d'avoir vécu l'unité populaire sur place, et il va nous en parler pendant une demi-heure. Si vous voulez bien.
Bon, alors, je tiens à remercier tout d'abord Juan Garcés pour les paroles aimables qu'il a adressées à mon égard. J'essaierai d'apporter quelques éléments de comparaison entre ce que fut la voie légale vers le socialisme sous l'unité populaire et 40 ans plus tard, enfin, je m'appesantirai peut-être beaucoup plus là-dessus, l'état d'une pensée, des stratégies possibles dans la recherche de ce qu'on peut appeler maintenant une société alternative. Bon, j'irai assez vite sur la question de l'unité populaire, la voie légale vers le socialisme sous l'unité populaire. Bon, cet accès au socialisme par la voie légale fut considéré, bien sûr, comme inédite. On peut se poser la question quelle fut, d'une part, la nature de cette transition vers le socialisme et ses liens avec la légalité en vigueur, l'idéal démocratique. Alors, de ce point de vue-là, on a certains éclairages à partir des discours même d'Allende. Il prononça au Stade national le jour de son investiture un discours dans lequel il fait référence aux fondements théoriques d'une voie pacifique. Et je le cite, « Du point de vue théorique, doctrinal, en socialiste que nous sommes, nous savons quelles sont les forces et les agents du changement historique. Et personnellement, je sais très bien, pour reprendre les termes textuels de Engels, que l'on peut concevoir l'évolution pacifique de la vieille société vers la nouvelle dans les pays où la représentation populaire concentre tout le pouvoir, où l'on peut faire tout ce que l'on désire en accord avec la Constitution, dès l'instant où l'on a derrière soi la majorité de la nation. C'est le cas de notre Chili. Ici, enfin, s'accomplit la prédiction d'Engels. » Bon, on peut évidemment se demander si ces conditions énoncées par Engels étaient vraiment réalisées au Chili. Tout d'abord, Allende remporta les élections avec 36,6% des voix, et au second tour, qui était le vote du Parlement, il obtient une majorité grâce à l'appui de la démocratie chrétienne, mais qui subordonna son appui à l'acceptation d'un statut de garantie constitutionnelle. D'autre part, on ne peut pas dire qu'il ait eu tout le pouvoir. Il était très loin de concentrer le pouvoir, puisque le Parlement, il n'avait pas le contrôle du Parlement, de la Contralorie, de la Cour suprême, des tribunaux de justice et surtout des forces armées. Donc, on peut dire que cette voie légale et pacifique au socialisme fut dans une certaine mesure, enfin dans une large mesure, démentie par les faits. Alors, on peut dire que pourtant, que ce programme de l'unité populaire établissait une véritable transition vers le socialisme, dans le respect de la démocratie. Il se démarquait de la démocratie chrétienne, qui avait un caractère plus réformiste dans son programme, en comprenant, bien sûr, vous savez, une réforme agraire en profondeur, la nationalisation et socialisation des monopoles étrangers et nationaux, l'ère d'une extension de la propriété sociale, et aussi le contrôle de la banque, avec des secteurs populaires qui étaient associés à la gestion de l'État. Alors, Allende devait être conscient de ces limites qui se présentaient pour lui, et il avait peut-être, Juan Garcés pourra confirmer ou non, l'intention de réformer la Constitution pour obtenir une autonomie institutionnelle à son profit. Mais il a dit textuellement dans un discours, « Nous ne pouvons dicter une constitution bourgeoise ni une constitution socialiste. Nous devons dicter une constitution qui ouvre la voie au socialisme, qui consacre les droits et fasse que les travailleurs gouvernent le pays. » Alors, cette définition des travailleurs était évidemment très large. Elle comprenait les ouvriers, les paysans, les employés, les techniciens, les intellectuels et même la petite et moyenne bourgeoisie d'entrepreneurs et commerçants. Mais le pluralisme énoncé par Allende était un pluralisme qui portait sur une alliance populaire et qui ne pouvait s'exprimer dans un parti unique. Là, il y a des déclarations très manifestes d'Allende à ce sujet-là. Et s'appuyant sur la théorie marxiste, il ne voyait pas le parti unique comme une nécessité. Je cite, « Les théoriciens du marxisme n'ont jamais prétendu, ni l'histoire n'a démontré, qu'un parti unique était une nécessité dans le processus de transition vers le socialisme. Ce sont les circonstances sociales, les vicissitudes politiques internes et internationales qui peuvent conduire à cette situation. » Bon, alors, je ne développerai pas trop tout ce qui fut l'opposition à cette transition vers le socialisme. Il y eut un passage très net d'une tripolarisation des forces à une bipolarisation, où la DC rejoignit la droite, et on peut peut-être dire que la convergence qu'on voyait entre les classes populaires et les petites ou moyennes bourgeoisies était peut-être surestimée, car une bonne partie de cette petite bourgeoisie, entre autres, se sentit dans un état plus ou moins effectif de peur, d'insécurité, face à la voie des expropriations à travers l'ère de propriété sociale. Ces rapports conflictuels, ça on l'a déjà abondamment montré, se présentèrent à la fois un caractère international, sur la scène internationale, on en a déjà parlé, au niveau interne, à la fois dans des actions se situant au plan politique, à travers toute une obstruction légale contre l'exécutif, qui finalement se termina par une mise en question de la légitimité du pouvoir d'Allende à propos des réactions du Parlement face à la réforme constitutionnelle mettant tout le secteur de l'aire de propriété sociale sous le pouvoir du Parlement. On considéra que Allende était sorti de la légalité et ce fut un élément qui intervint, qui ouvrit la porte au coup d'État militaire. Il y eut bien sûr aussi une série d'actions de violence, de sédition économique, je ne parlerai pas sur toutes ces actions dont on a déjà parlé, mais il faut dire que Allende, dans une situation, dans une vision très tolérante finalement des libertés et du pluralisme, laissa par exemple le champ libre à une presse de droite qui ne pouvait conduire qu'à toute une politique de désinformation, car cette droite, ces médias contrôlés par la droite, incitèrent clairement les militaires à entrer en action. Mais ce que je retiendrai surtout de cet aspect des actions, réactions dans les oppositions, les rapports entre la droite, la démocratie chrétienne et l'unité populaire, c'est que les milieux populaires furent capables, au milieu de tous les événements économiques qui se présentaient, les pénuries, les grèves, etc., à se mobiliser pour contrôler une part de la distribution et des prix, faire marcher et défendre la production et les acquis sociaux, via les juntes d'approvisionnement et de prix, les conseils communaux, les cordons industriels, etc., ouvrant la voie à ce qu'on pourrait qualifier de pouvoir populaire. Mais il faut dire que Allende s'opposa fermement à la formation d'un double pouvoir. Et je n'ai pas les textes ici, mais enfin, je pourrais les retrouver. Il condamna en termes très violents la mise sur pied d'une assemblée populaire à Concepción, à laquelle avaient participé le MIR, le Parti Socialiste Local, le MAPU, ainsi que la CUT provinciale et des représentations des différents secteurs sociaux, paysans, pobladors, étudiants. Alors, cette question du pouvoir populaire, du renforcement des jambes, cordons industriels, etc., fut un sujet de polémique au sein même de l'unité populaire. Après l'entrée de militaires au gouvernement, l'adoption d'une politique économique moins agressive de la part de l'unité populaire, des tentatives d'accord avec la démocratie chrétienne, on observa une relative démobilisation de ces organisations d'un pouvoir populaire. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais enfin, c'est une interprétation. Il y eut dans la dernière période un certain ralentissement, au moins dans la mobilisation, alors que la droite, au contraire, entra dans des mobilisations de masse, faisant changer quand même très fort les rapports de force, et conduisant à la fin de la transition légale vers le socialisme. Alors, à partir des dernières décennies du XXe siècle, l'Amérique latine va connaître, comme on sait, une généralisation de démocratie, plus ou moins contrôlée. On pourrait poser la question de la nature des gouvernements de gauche, la similitude qu'ils peuvent présenter ou non avec l'expérience d'une voie vers le socialisme sous l'unité populaire. Tout ça peut être discuté. Je croyais que Guy Bajois allait en parler, mais comme il ne va sans doute pas en parler, je ne sais pas. Je ne me suis pas appesanti sur ce point-là. Mais, et là, je voudrais quand même aller
plus rapidement. 40 ans plus tard, on peut se demander quel est le contexte dans lequel nous sommes. On ne parle plus, on recherche maintenant une société alternative. Les termes de transition vers le socialisme ou de socialisme sont rarement utilisés, mis à part certains régimes qualifiés de gauche en Amérique latine. On parle de société alternative, d'altermondialisation, de post-capitalisme, et ceci traduit une absence de définition positive d'un autre type de société, ce qui pourrait correspondre à une certaine incapacité, finalement, de visionner un autre mode de vie et aussi la perte d'un modèle plausible face au manquement d'un capitalisme globalisé. Alors, très rapidement, les éléments du contexte. Bon, il y a la chute et le discrédit de la plupart des socialismes réels. Il y a la mondialisation sans limite d'une économie néolibérale et son type de rationalité. Et plutôt que de parler d'économie de marché, je parlerai d'une société de marché. Car les critères de l'homo economicus libéral ont envahi tous les domaines de la société. La culture, les sciences, même l'université, les loisirs, les sports, etc. D'un autre côté, la plupart des États n'occupent plus qu'une place subordonnée face à l'emprise des pouvoirs internationaux qui limitent sa souveraineté. Enfin, dans les dernières décennies, il faut mentionner les crises économiques et surtout financières qui se sont présentées. Et si l'on prend le cas de l'Europe, l'Europe est quand même un cas assez emblématique. L'Union européenne et les agences de notation ont poussé les États dans une spirale de restrictions budgétaires, privatisation des services publics, rationalisation, baisse drastique des dépenses sociales et des mesures de protection sociale. On peut parler véritablement d'une régression sociale, avec la paupérisation, le chômage, l'exclusion sociale. Tout ceci accompagné, ça me semble aussi un élément important, d'un accroissement des inégalités. Accompagné d'une part une valorisation des rémunérations exorbitantes pour une toute petite élite, accompagné d'autre part d'une stigmatisation des pauvres et des populations immigrées. Ce qui fait dire à un auteur comme Buaventura de Sousa, des sociétés politiquement démocratiques sont devenues socialement fascistes. Je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, vous pourrez en juger. Et dans ce contexte, il faut bien dire que la gauche révolutionnaire classique a perdu de sa consistance ou de son poids. Mais d'un autre côté, et c'est là-dessus que je vais m'attarder, d'un autre côté, nous assistons, malgré un sentiment d'impuissance, à un certain renouveau de la pensée critique et à de nouvelles formes de contestation. C'est cet aspect-là que je voudrais développer. D'abord, on peut peut-être parler, mais ici c'est l'imaginaire de la pensée, je ne dis pas que ça se réalise, on peut peut-être parler d'une vision enrichie de la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Déjà, Poulantzas en 1978, Poulantzas, auteur marxiste, avait déclaré « il ne peut y avoir de socialisme que démocratique ». Et il entendait par démocratie la coexistence d'une démocratie directe et d'une démocratie représentative, reprenant une idée qui avait déjà été énoncée par Rosa Luxembourg, qui dit ceci: « En niant les corps représentatifs surgis des élections populaires générales, Lénine et Trotsky ont installé les soviets comme l'unique représentation authentique des classes laborieuses. » Mais avec l'étouffement de la vie politique dans tout le pays, la vie des soviets eux-mêmes ne pourra pas échapper à une paralysie étendue. Sans élections générales, liberté de presse et de réunion illimitée, lutte libre des diverses opinions, la vie s'éteint de toute institution politique et seule triomphe la bureaucratie. Bon, alors, cette conjonction des deux formes de démocratie suppose bien sûr une transformation radicale de l'appareil d'État, et d'autre part, l'existence de formes d'autogestion ou de participation directe qui ne peuvent être atteintes, et je reprends ici les expressions de Poulenzas, qu'à travers des mobilisations qui sont susceptibles de contrecarrer les adversaires. Alors, cette double exigence, sans doute, ne put pas être atteinte sous l'unité populaire, mais nous en voyons quand même des germes, puisque l'État n'était pas entièrement pénétré par le pouvoir populaire. Et il faut constater, dans la période actuelle, selon Dessoussart, que la démocratie représentative, d'une part, est faussée dans la mesure où le politique est devenu un marché comme l'économique. Une démocratie représentative supposerait que les représentants agissent véritablement au nom des représentés, dans une relation de confiance, et qu'ils puissent rendre des comptes, ce qui est loin d'être le cas. Et par ailleurs, la complémentarité entre les deux types de démocratie suppose l'accomplissement d'une démocratie radicale, c'est-à-dire qui déborde le champ du politique, c'est-à-dire qui comprenne l'économique, le social, le culturel, les médias, en termes de délibération et de participation directe du plus grand nombre. Alors, si l'on veut entrer dans la pensée actuelle, il y a des points que je vais... Il me reste combien de temps? Un quart d'heure?
Plus que ça.
Plus que ça, oui. Bon. Alors, ce qu'on peut mentionner dans un enrichissement, disons, d'une démocratie ou dans une perception d'une société alternative, c'est que il y a une tendance maintenant à incorporer la dimension environnementale. Là, c'est un élément qui me paraît très important. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut dire que les mesures proposées dans les accords internationaux conduisent au mieux, je dirais, à un capitalisme vert. Les droits et quotas d'émission obéissent à une logique marchande et maintiennent les inégalités des conditions entre le Nord et le Sud. Un dépassement de ce capitalisme vert devrait se présenter dans une optique d'écosocialisme, comme le dit Michael Lewy. Ce dépassement reposerait sur l'idée que la logique productiviste d'accumulation soit remplacée par une logique impliquant un frein à la croissance et la priorité aux besoins sociaux. Qu'on mette en œuvre des politiques visant le long terme, vision qui échappe au capitalisme néolibéral, qui ne peut raisonner dont le profit se détermine à court terme. Je ne crois pas que le capitalisme soit capable de voir à long terme. Enfin, je me trompe peut-être. Que soit instaurée enfin une institution mondiale de régulation environnementale apportant des résolutions à force exécutoire et qui assure en même temps la survie des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Alors, ce qui représente maintenant peut-être une particularité de la période actuelle, c'est que l'on raisonne plus en termes de nombreux acteurs sociaux ou de nouveaux acteurs sociaux pour le changement à travers une vision, qui est peut-être utopique, d'une convergence des mouvements sociaux. Alors, je citerai dans une approche léniniste, un changement radical devait répondre à une révolution prolétarienne, menée par une classe fondamentale, ouvrière, ses alliés possibles, par exemple la paysannerie. Elle était représentée et guidée par un parti unique dont la direction était nantie d'une sorte d'infaillibilité concernant la ligne à suivre. Alors, dans le contexte actuel, on s'est écarté considérablement de cette vision. L'identification des acteurs de changement est quand même beaucoup plus floue et ne se présente pas uniquement en termes de classe sociale, étant donné que les perdants, les insatisfaits des politiques néolibérales se retrouvent dans un certain nombre de catégories sociales, comme par exemple les jeunes, et on voit bien dans les dynamiques de mobilisation des jeunes, qui ont besoin de recherche de défendre l'emploi, ont besoin d'avoir une certaine sécurité, certaines perspectives d'emploi. Alors, en fait, on se trouve devant une multiplicité de mouvements qui recherchent, qui luttent pour des changements à première vue sectoriels. Bon, je ne les citerai pas tous, droits humains, environnement, mouvement féministe, mouvement ethnique, recherche des paysans pour une souveraineté alimentaire, etc., etc. Et ce qui a caractérisé quand même notre époque, c'est la rencontre de ces différents mouvements et quelques organisations syndicales à l'intérieur des forums sociaux mondiaux. Alors, il y a toute une littérature là-dessus qui considère que ces forums sociaux mondiaux introduisent une sorte de mouvement des mouvements et représentent une contre-hégémonie globalisée. Ce forum veut reposer sur des structures ouvertes, horizontales et libres, refusant tout ordre du jour rigide et une direction contraignante, avec un clivage qui s'est présenté à l'intérieur de ces forums sociaux, d'une part un courant plus autogestionnaire, d'inspiration plus anarchiste, qui rejette la perspective de prise de pouvoir, qui s'attache à des changements par le bas et des micro-alternatives multiples susceptibles d'être contagieuses. C'est là un courant très important qui répond un peu à la vision de la structure de ces forums. Et d'autre part, il y a un courant qui envisage des changements par le haut, qui recherche une convergence entre thématiques pour agir sur le politique, modifier les rapports de force, et qui demande, bien sûr, une structuration, qui demanderait une structuration plus efficace du mouvement. Et il faut signaler, par ailleurs, la sous-représentation du monde populaire par rapport aux ONG, cadres militants, etc. Là, c'est un des aspects qui apparaissent dans une vision alternative. Un autre aspect, mais je vais le passer parce que j'ai peur de ne pas arriver au bout. Pardon ?
C'est plus prudent.
C'est les paramètres d'une économie plurielle. On rentre un peu dans une idée qui n'est pas celle d'une socialisation totale des moyens de production, mais la recherche d'un équilibre entre États qui ne seraient plus dépendants des marchés capitalistes, mais qui seraient capables de gérer un certain nombre de fonctions de redistribution sociale, de services et de recherche de biens communs, faire accepter les droits à la terre, l'eau, la santé, etc., respecter la biodiversité. D'autre part, l'idée est d'introduire un marché capitaliste davantage régulé par les institutions internationales publiques. Et d'un autre côté, c'est l'idée que l'État, plutôt que de s'associer avec un marché capitaliste qui serait régulé, bien sûr, devrait surtout développer, protéger deux autres pôles de l'économie, qui sont d'une part l'économie familiale, dont la petite paysannerie et les micro-entreprises, et d'autre part une socio-économie associative, dont l'économie sociale est solidaire. Bon, alors, ce qui apparaît, et là, pour moi, c'est un des points importants, aussi dans la pensée actuelle, c'est le rejet d'une vision universaliste. C'est-à-dire qu'on va vers un certain pluralisme culturel. L'approche d'une société alternative implique le rejet d'un universalisme occidental et accorde une plus grande place à la diversité culturelle. La pensée marxiste était assez monoculturelle, accordant foi à un programme de l'humanité passant par une modernisation capitaliste. Je ne dis pas toujours, enfin en principe. Elle postulait l'universalité de la logique scientifique de la science occidentale et sa supériorité épistémologique sur les autres cultures. Maintenant, on recherche à dépasser cette vision, en pensant que l'égalité dans les rapports sociaux et intersociétaux doit impliquer aussi la reconnaissance des différences. Donc, il y a même, pour certains auteurs, le rejet d'une vision universaliste des droits humains, dont l'interprétation peut être différente selon la culture. Une compréhension d'une sociodiversité, c'est-à-dire l'acceptation qu'il y ait des modèles de développement variés, et une mise sur pied d'égalité de tous les systèmes de pensée. À cet égard, il me semble qu'il y a une expérience très intéressante qui est celle, 5 minutes, merci, qui est celle de la notion de bien vivre, bien vivir, qu'on a retrouvée dans les populations mayas, mais qui est intégrée dans une sorte de confection institutionnelle sui generis en Bolivie. La révolution politique d'Evo Morales, sous l'impulsion d'un mouvement social indien, redéfinit une identité du pays, mettant fin au colonialisme interne. Et je cite un auteur, des auteurs ici, qui disent « Le vivir bien serait entendu comme un paradigme social, économique et culturel alternatif à la modernité capitaliste industrielle occidentale et trouvant son origine dans la philosophie de vie des peuples indiens. » Alors, les auteurs montrent les éléments constitutifs qui sont la défense de la vie en communauté et en harmonie avec la nature, une culture fondée sur le lien social et affectif ou la sociabilité, le respect de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources en récupérant les cultures ancestrales, une logique fondée sur les besoins humains donnant la priorité à la valeur d'usage contre la logique du capital, la participation et l'élargissement de la démocratie dans une perspective interculturelle, une vision biocentrée et cosmique de la vie. Alors, le paradoxe, évidemment, repose dans le fait que comment concilier cette vision du bien-vivir avec des structures étatiques et les impératifs d'un développement national. Pour Garcia Linera, vice-président du pays, il s'agit de cheminer sur 3 axes stratégiques. Un État plurinational, des autonomies, une industrialisation dans un contexte d'économie plurielle, dans le cadre de structures socioculturelles complexes et plurielles. Et Garcia Linera parle de 3 modernités, l'industrielle, celle de la micro-entreprise urbaine artisanale et celle de la paysannerie communautaire. Mais la capacité d'inscrire dans l'ensemble de la société ces principes du bien-vivre et de concilier des rationalités quand même différentes, tout cela dépend d'un autre type de rapports sociaux. J'aurais dû développer des aspects qui concernent les divers espaces et actions stratégiques qui se situent tant au plan local qu'au plan régional et sur le plan rational, régional, citons quand même l'expérience des néo-zapatistes au Chiapas. Au niveau national et supernational, mentionnons l'action directe contre-hégémonique qui s'est manifestée contre les institutions internationales, manifestation contre l'OMC, les sommets européens, les G8, etc. Avec aussi une tendance à rechercher des réformes à l'intérieur des grandes organisations mondiales ou à rechercher une déconnexion d'ensembles régionaux. Et c'est un peu l'idée qui a trouvé une certaine concrétisation en Amérique latine avec l'ALBA, promue par Chavez, et qui base un traité du commerce des peuples sur les principes de solidarité, etc. Alors, j'arrive à la conclusion. 2 mots. Les actions énoncées, et je ne les ai vues ici que très, très rapidement, devraient être complémentaires. C'est l'idée qu'on peut avoir, on peut agir au niveau micro, au niveau régional, etc. Mais elles présentent un fond commun d'indéfinition, divergence thématique, de variété dans l'espace et les temporalités qui ne les rendent pas suffisamment convergentes pour entreprendre une action commune. On peut parler d'une complémentarité, mais elle ne se traduit pas dans une véritable convergence et je ne crois pas que le Forum social mondial nous fasse aller vers une véritable convergence. D'autre part, une réflexion devrait porter sur les rapports entre pouvoirs politiques, partis et mouvements sociaux. Or, on voit là qu'il y a une série d'hiatus qui se présentent. Par exemple, l'absence de courroies de transmission politique des mouvements vers les pouvoirs, en raison de l'enfermement des partis dans des pratiques de compromis et de réformisme, la difficulté des organisations sociales à se fédérer, à se mobiliser dans un large mouvement social, l'obtention improbable à court terme d'un large consensus des populations. Alors, on peut dire que la situation actuelle et ses problèmes aussi de liaison entre pouvoir, parti et mouvements sociaux s'est retrouvée évidemment sous l'unité populaire. Il y a à la fois des similitudes qu'on peut trouver, une vision peut-être différente ou enrichie ou modifiée de la démocratie, mais disons, des différences sont observées en fonction d'un contexte qui, comme ce fut le cas sous l'unité populaire, ne porte pas spécialement à l'optimisme.
Merci. Merci beaucoup, monsieur Deveux. C'est très gênant de devoir faire le singe un peu à côté de vous, mais il y a des impératifs de temps, surtout qu'on m'avertit, c'est ce que je vois maintenant, que nous devons libérer cette salle à 16h, il y a des cours. Et donc là, c'est un peu gênant pour nous. Donc, je passe... Vous avez posé des problèmes fondamentaux, on se heurte toujours à la question de l'État. De l'État, comment bouger l'État sans en touchant pas à la démocratie, comment transformer l'État, et aussi, surtout, ce que vous avez posé, c'est qu'à travers tous les projets et les voies que vous décidez, se pose toujours, vous l'avez évoqué très sérieusement, la question de quel est l'acteur social qui pourra opérer toutes cette transformation. Et là, nous sommes encore toujours dans une discussion qui pourrait être terriblement intéressante. Merci beaucoup, monsieur Leveux. J'appelle tout de suite monsieur Guy Bajoie, qui est également sociologue de l'Université catholique de Louvain et qui, me dit-on, a été l'un des maîtres les plus abondants de mémoire menée par des élèves, des étudiants chiliens et qui donc, ne fût-ce qu'à travers ça, doit avoir une connaissance particulière du sujet. Il nous parlera de l'actualité du projet de Salvador Allende pour la gauche d'aujourd'hui. Ce n'est pas une redondance de l'intervention précédente, je suppose, mais ça la prolonge sûrement.